besoin d'en parler à quelqu'un, de confier tout ce chagrin. Toi, tu sais quelle est la fin déjà. Toi, tu es l'un de ceux qui utilisaient, blessés, transformés, à trouver l'amour pour parler.
Et voilà, c'était Christina Goy et on vous laisse en compagnie de Linda Balier qui s'installe pour les 7 heures.
En Côte d'Ivoire. En ce moment, Canal Plus vous offre 15 jours à tout Canal Plus pour tout réabonnement à votre formule habituelle.
Le journal du 7 heures. Linda Christelle Balier.
7 heures en Côte d'Ivoire, ici Abidjan. Merci de nous suivre sur les 96.0 FM Radio de la Paix à Abidjan et ses environs. À la une de cette édition, plus de 7 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école depuis hier lundi, date de la rentrée des classes. Un début effectif constaté par nos reporters à Abidjan et correspondant à Bouaké. La Banque africaine de développement BAD célèbre ses 60 années d'existence ce mardi 10 septembre à Abidjan. Retour dans ce journal sur quelques actions menées par cette institution bancaire panafricaine depuis sa création en terre ivoirienne. Et puis dans l'actualité, sur le continent Guinée-Bissau, près de 3 tonnes de cocaïne ont été retrouvées dans un jet privé en provenance du Venezuela. On en parle dans ce journal. Avant d'en arriver à la revue des titres des journaux ivoiriens parus ce mardi 10 septembre, dont Aoussi Potin sera chargé. Et notre invité de la rédaction, le professeur Bamba Abdoulaye, professeur en histoire des relations internationales, reviendra sur les conclusions du sommet sino-africain FOCAC, qui a vu l'adoption de d'autres documents majeurs pour la coopération Chine. Afrique, voilà pour le sommaire. Annoncé pour hier, lundi 9 septembre, la rentrée scolaire 2024-2025 est effective à l'école primaire publique Akwedo Village 2 et au lycée moderne de Kokodi, dans la commune de Kokodi à Abidjan. C'est ce qu'a constaté notre reporter Baudelaire Kofi.
Ce lundi, entre 11h et midi, nous arrivons à l'école primaire Akwedo Village 2 à Abidjan Kokodi. La reprise est effective selon sa directrice Adjoa Yao Prissi.
Aujourd'hui, premier jour de la rentrée, on a bien repris et les enseignants sont là. Les élèves également sont venus nombreux, contents de revoir l'école. Les toilettes aussi ont été réhabilitées.
Les enseignants, quant à eux, se disent prêts, en témoigne ce dernier.
Pour une première journée, j'ai déjà presque 52 élèves dans ce que ça va aller. On les attend. Sinon, au niveau des enseignants, nous sommes tous là. On est 7, on est là et on les attend.
Côté élèves, c'est la joie de la reprise, aussi bien à l'école primaire publique Akwedo Village 2 qu'au lycée moderne de Kokodi.
Ça s'est passé bien et je suis content de reprendre les cours.
Cette année, je suis en troisième. J'étais très stressé. Durant ces vacances, je pensais comment j'allais faire pour avoir mon BPC. Mais quand j'ai vu mes amis, ça m'a donné le courage de pouvoir mieux avancer dans mes études.
Le premier jour d'école s'est bien passé. On a fait les inscriptions, on a pris les listes des fournitures et le vendredi, on va prendre notre emploi du temps.
Le train-train de l'année scolaire a repris pour les parents.
Ce matin, j'ai lavé mes enfants. J'ai déposé la plus grande à l'école FSCM 1. Et puis la plus petite, elle fait jardin. Je suis allée la déposer. Comme il est 11h30, je vais la chercher.
Rappelons que cette rentrée scolaire 2024-2025 est placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ».
À Bouaké également, après plus de 3 mois de vacances, les élèves de la ville ont repris depuis hier le chemin de l'école, à l'instar de leurs camarades des autres localités du pays. Le constat de Joseph Assalé, notre correspondant dans le Bouaké.
Dans les établissements scolaires de la ville de Boaké où nous sommes passés ce lundi 9 septembre, la rentrée des classes est effective. Au lycée classique, le proviseur Mahabou nous fait l'état des lieux.
On a un taux d'inscription de 72%. Ceux qui sont là actuellement, qui déjà font les 72%, ils sont dans les classes.
Un tour dans quelques salles de classe finit par nous édifier.
Il faut d'abord réchauffer, disons, la marmite avant de commencer vraiment, véritablement. Et donc, nous sommes là déjà pour les révision. Nous avons véritablement commencé.
Cap à l'école primaire Plateau. Ici, élèves et enseignants ont répondu à l'appel.
Sanogo Mustapha, je suis le directeur de l'école EPP Plateau B. Je vois qu'il y a plusieurs élèves qui sont arrivés. Même ceux même qui n'ont pas vu l'année passée, là, d'autres viennent encore renouveler pour dire que c'est cette année qu'ils vont venir. On a pensé qu'ils avaient abandonné, mais ils sont revenus.
Je suis contente aussi de voir mes camarades de classe.
Au CAFOP, Centre d'animation et de formation permanente de Boaké 1, en attendant l'affectation des stagiaires de la première année, les élèves de la deuxième année sont déjà à la tâche. Doumbia Moussa, directeur de l'établissement.
On peut le dire, les cours ont commencé et vous allez voir les élèves en place. Ils sont venus en grand nombre. Ils sont 447 stagiaires exactement cette année. Les professeurs aussi sont là.
Le CAFOP 1 de Boaké a été entièrement réhabilité afin d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des apprenants. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Parlons économie avec la Banque africaine de développement, la BAD, qui a 60 ans, 6 décennies au service d'une croissance économique durable en Afrique de 1964 à 2024. À l'occasion de la célébration de ses 60 ans, ce mardi, Junior Cardin nous retrace quelques acquis de cette institution bancaire panafricaine.
Réunis à Khartoum, au Soudan, en septembre 1964, les représentants de 25 pays africains se sont mis d'accord sur l'idée de créer une banque capable de soutenir le développement économique de l'Afrique. Une étape importante est franchie un an plus tard avec l'établissement d'un nouveau siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Plusieurs décennies sont passées et ont enregistré d'énormes progrès. Ainsi, l'année 1974 a vu l'augmentation générale du capital de 206 millions de dollars américains et le lancement du Fonds africain de développement. En 1984, les prêts et subventions accordés par la banque s'élèvent à un total de 880 millions de dollars américains. Le total des prêts et des dons accordés par la banque s'élevait à 1,4 milliard de dollars américains en 1994. Elle adopte une stratégie axée sur la mise en place d'équipes dans les pays afin d'améliorer ses investissements et son soutien. En 2005, la BAD lance un ambitieux programme de décentralisation dans le cadre duquel elle se tourne vers la fourniture de produits et de services. La dernière décennie de l'histoire de la banque s'est focalisée sur la recherche d'une croissance économique durable pour l'ensemble du continent. 60 ans après sa création, la BAD a de quoi être fière de ses réalisations. Global Finance l'a classée meilleure banque multilatérale de développement au monde. La stratégie décennale 2024-2033 de la banque a été présentée à la réunion de l'Association internationale de développement, IDEA, de la Banque mondiale début mai dernier à Nairobi, au Kenya. C'est cette banque qui célèbre les 60 ans de son existence à partir de ce mardi 10 septembre à Abidjan.
Et toujours en économie, l'édition 2024 du FOCAC, le sommet Chine-Afrique, s'est achevée le 6 décembre dernier, reprécisant les contours d'un nouveau partenariat. Il s'est tenu autour du thème « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». La Chine occupe depuis quelques années la première place des pays partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire et plusieurs accords sont venus conforter cela, n'est-ce pas Mata Touré ?
C'est une trentaine de partenariats signés et la déclaration, mais surtout un plan d'action pour la période 2024-2027 qui va se déployer en 10 actions de partenariat visant à favoriser le développement durable, la coopération économique et l'échange culturel. Parmi ces actions figurent l'interconnexion des infrastructures et la coopération agricole et la promotion de la santé publique ainsi que la protection de l'environnement. À côté de cela, d'aucuns s'interrogent sur le poids du crédit que va constituer la moitié des 50 milliards de dollars supplémentaires promis et qui devraient creuser l'endettement de l'Afrique envers la Chine. Ils en veulent pour preuve l'accès du marché chinois et qui serait encore peu ouvert aux Africains. Selon certains rapports, environ 10% de l'ensemble des exportations africaines seraient destinées à la Chine, principalement des matières premières, 70% de pétrole, 15% de ressources minières, tandis que les exportations chinoises, elles, ne représentent que 2,5% des importations totales du continent, principalement des produits manufacturés. On notera également que la Côte d'Ivoire et la Chine ont signé une dizaine d'accords cadres pour renforcer leurs échanges commerciaux avec un contenu portant sur le commerce des marchandises et services, l'accès aux produits agricoles tels que le cacao, l'anacarde, le caoutchouc et autres produits agricoles ivoiriens sur le marché chinois, la promotion du commerce électronique, les transferts de paiements électroniques et tout ce qui se rapporte au développement de la logistique.
Merci à vous, Mata Touré, pour ce résumé sur les conclusions du sommet sino-africain FOCAC, un sujet qui sera abordé dans l'invité de la rédaction avec le professeur Bamba Abdoulaye. Un mot d'environnement à présent dans ce journal pour parler de la conférence continentale sur la justice climatique qui s'est tenue à Abidjan du 4 au 5 septembre dernier. Cet événement qui a réuni des acteurs venus de toute l'Afrique avait pour objectif principal de former les journalistes aux enjeux environnementaux et de réécrire le narratif climatique africain. Le thème central de cette conférence était renforcer les capacités des journalistes pour favoriser une transition climatique juste en Afrique. Christelle Yesso nous en dit un peu plus à ce sujet.
Cette conférence a porté principalement sur la justice climatique, un terme défini par Dr Alex Mayo-Nagbo, conseiller technique et représentant du ministre de l'Environnement.
La justice climatique, en réalité, devrait permettre de responsabiliser à la fois les personnes physiques, les personnes morales, y compris l'État, les entreprises, sur leur rôle face au fléau du changement climatique issu du fait de l'homme.
Pour le président de la Fédération africaine des journalistes, la FAGE, il était important de rétablir les responsabilités dans le phénomène de pollution mondiale. Omar Farouk Osman.
Ce sont les pays industrialisés qui font qu'il y a un dérèglement climatique, alors que c'est le continent africain qui en souffre le plus. Donc, nous sommes venus à Abidjan pour renforcer les capacités des différents journalistes, leur donner les outils nécessaires pour pouvoir apporter ce nouveau narratif-là, pour que le monde entier puisse entendre l'Afrique.
L'État de Côte d'Ivoire a à son niveau pris des mesures de répression, le représentant du ministre.
Beaucoup d'entreprises polluent et aujourd'hui il n'est plus question de laisser la pollution impunie. Et déjà plusieurs entreprises ont été fermées.
Pour Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le rôle des journalistes dans cette lutte est plus que primordial.
Nous sommes des lanceurs d'alerte. À chaque fois qu'il y a une pollution ailleurs, les journalistes travaillent. Nous jouons notre rôle d'éveilleurs de conscience. Maintenant, au niveau de l'UNJCI, notre rôle et d'accompagner tout cela.
Cette conférence s'étendra sur deux journées de réflexion.
Sur le continent, la police bissau-guinéenne a mis la main sur une énorme quantité de drogue samedi dernier. 2,6 tonnes de cocaïne ont donc été retrouvées dans un jet privé en provenance du Venezuela avec à bord 5 citoyens latino-américains. Il s'agit de la plus grosse saisie de l'année selon la police qui collaborait pour le coup avec la DEA, le département antidrogue américain. Les autorités bissau-guinéennes ont promis de punir durement tous ceux qui ont un lien avec cette affaire. Et puis la revue des titres des journaux ivoiriens parue ce mardi 10 septembre est l'affaire de Aoussi Potin que nous retrouverons à l'instant. Bonjour Aoussi Potin.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Et c'est parti pour la rentrée des classes 2024-2025. Depuis hier, lundi 9 septembre 2024, et après 3 mois de vacances, plus de 7 millions d'élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris le chemin des salles de classe en Côte d'Ivoire. Rentrée scolaire 2024-2025, ambiance hier dans des écoles d'Abidjan et de l'intérieur affiche à sa une Fraternité Matin. Un titre identique que propose aussi le quotidien Le Jour Plus qui précise ce qu'élèves, parents d'élèves et encadreurs ont confié. Quand pour sa part l'avenir s'intéresse aux enjeux de cette rentrée en titrant Rentrée scolaire 2024-2025, Maria Toukoné situe les enjeux, fixe de nouveaux objectifs. Le temps du désamour a-t-il sonné entre le FPI et le RHDP ? Réponse affirmative avec ce titre de une du tabloïd L'Inter. FPI, RHDP, c'est fini. Et puis d'y ajouter cet extrait de propos du président du directoire du RHDP, Kone Kafana, et nous le citons. Je suis surpris. Fin de citation. Le faux pas de Pascal Afinguessan juge le sort ivoirien. Afi retourne dans les bras de Gbagbo, annonce de son côté le matin qui poursuit en indiquant aussi que le vice-président du FPI claque la porte. Sur un ton qui frise quelque peu le sarcasme, hein, Génération Nouvelle du moins ça indique qu'à peine après un an de partenariat entre le FPI et le RHDP, AFI fait la meilleure expérience avec Ouattara, puis de prédire qu'une tempête guette le président du FPI. Des jours mouvementés pour le président du FPI qu'annonce aussi Soir Info qui titre « La nouvelle crise au FPI s'accentue ». Un proche d'AFI démissionne de la direction du parti. Plusieurs hauts responsables absents hier à la dernière réunion du comité central. Ce que le RHDP dit de l'annonce de la fin du partenariat. Refermons cette revue des titres toujours au chapitre politique en nous intéressant au quotidien L'Expression qui titre ce matin sur le PDCI RDA indiquant que la convention de ce parti qui approche à grands pas et bien sera donc une convention de tous les dangers. Et puis le patriote qui propose une interview d'un cadre du RHDP, Habib Sanogo, extrait à la une. Habib Sanogo, cadre du RHDP, pourquoi Ouattara doit continuer?
Merci beaucoup à vous, à Aoussi Potin, pour cette revue des titres des journaux ivoiriens parus ce mardi. Vous serez de retour dans l'édition de 8h pour toujours le même exercice.
Absolument.
On aborde à présent l'invité de la rédaction. Il s'agit ce jour du professeur Bamba Abdoulaye, professeur en histoire des relations internationales. Après la tenue du forum sur la coopération sino-africaine FOCAC les 4, 5, 6 septembre dernier, où deux documents majeurs ont été adoptés, notamment la déclaration et le plan d'action qui présentent des accords clés et une feuille de route pour la coopération sino-africaine au cours des 3 prochaines années. Professeur Bamba Abdoulaye nous fait une analyse de tout ceci. Il répond aux questions de Tatouri.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour madame.
Ce 6 septembre 2024 s'est achevé à Pékin la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, où à l'analyse, l'Afrique est présentée comme incontournable. On parle de « sans la modernisation de la Chine et de l'Afrique, il n'y aura tout simplement pas de modernisation mondiale ». Qu'en est-il réellement?
Vous savez que ce sommet se déroule dans un contexte international marqué par deux crises majeures, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et puis les tensions au Moyen-Orient. Et naturellement, quand il s'agit de conflit, vous avez donc les jeux de cartes, d'alliances, des partenariats qui se jouent. Et en pareille circonstance, l'Afrique apparaît où la Chine intéresse privilégié, lui permet donc de rassurer ses partenaires, de les convaincre de la nécessité d'être toujours ensemble. Et c'est dans ce cadre que, lorsque le président chinois affirme de tels propos, il faut retenir que la modernisation à l'occidental a ses avantages et a aussi des inconvénients. Et quand on prend les avantages, il y a que si la Chine et le continent africain ne suivent pas le rythme, il va forcément avoir donc un déséquilibre. Deux mondes, deux cartes différentes. Une carte où il y a un progrès total et puis une carte où il n'y a pas. Donc, si la Chine et le continent africain ne suivent pas cette modernisation, je pense que cela va mettre à mal l'équilibre même mondial, c'est ce qu'il veut dire. Mm-hmm. Cela montre aussi l'importance du continent africain et l'importance de la Chine comme nouvelle puissance mondiale.
Que pensez-vous de cet argument selon lequel les projets gigantesques qui ont été financés par les prêts chinois ont considérablement accru la dette de certains pays africains?
Sur cette question, j'ai toujours eu la position suivante. La crise de la dette, c'est tout simplement commencé par la relation Afrique-Chine. Et pour moi, les chefs d'État africains doivent faire preuve de beaucoup de responsabilité en s'endettant. Parce que s'endetter, il n'est pas faire bon usage de cette dette et puis après venir, excusez-moi l'expression, mais plus vernicher. Pour moi, c'est parfois un manque de responsabilité. Parce que vous vous endettez, il faut avoir déjà des secteurs dans lesquels vous allez investir cet argent, des secteurs productifs, pour ne pas être à mal après dans le remboursement de cette dette.
La Chine mise sur ses relations privilégiées avec les chefs d'État africains. D'aucuns évoquent des relations asymétriques très fortes dans les relations bilatérales avec des négociations spécifiques avec chaque pays. Est-ce que c'est une réalité selon vous?
Oui, vous savez, généralement on dit les relations Chine-Afrique. On donne l'impression qu'il y a une Afrique homogène, compacte, uniforme. Mm-hmm. C'est pas la même réalité. Selon que vous soyez du Nord avec un niveau beaucoup plus avancé ou un pays au sud du Sahara ou un pays en crise politico-militaire, il y a des réalités qu'il faut forcément appréhender dans les négociations avec la Chine. Mm-hmm. Mais en tout état de cause, c'est quand il y a la stabilité, quand il y a une alternance démocratique, que vous pouvez négocier avec des grandes puissances sur le long terme, Sinon, après, la dette devient un fardeau pour lui et pour vous, et vous retrouvez sur une situation inconfortable.
Le président chinois, dans son discours, a annoncé de nouvelles initiatives, a exposé la vision de Pékin pour l'avenir des relations sino-africaines. Il y a question d'ailleurs de 10 actions de partenariat. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un plus après ce forum pour le continent?
Oui, le plus va se retrouver à deux niveaux. Généralement, l'observation ou la critique majeure qu'on faisait, c'est d'abord que la Chine ne s'intéressait pas beaucoup aux questions de terrorisme, d'armement, de coopération militaire avec les États africains. Cela, je crois, a été pris en compte dans ce sommet. Ensuite, la question de l'emploi. Généralement, accuser la Chine de venir avec sa main-d'œuvre, travailler sur les chantiers africains. Et j'ai vu que dans les recommandations à propos du président chinois, il est envisagé de créer beaucoup d'emplois pour les nationaux africains, si je peux m'exprimer ainsi, et donc de réduire le taux de chômage. C'est deux éléments essentiels qu'il faut prendre en compte. Mais il y a aussi les 10 actions qui sont prévues dans le partenariat Chine-Afrique. Et quand vous analysez ces 10 actions, et elles prennent en compte un peu tous les aspects qui rentrent en compte dans le développement d'un pays. C'est pour moi, c'est voilà les faits majeurs sur lesquels il faut capitaliser dans les années à venir avant le prochain sommet Chine-Afrique.
Professeur Bamba Abdoulaye, je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup.
C'était le professeur Bamba Abdoulaye, professeur en histoire des relations internationales, l'invité de la rédaction. Il répondait aux questions de Mata Touré. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Plus de 7 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école depuis hier lundi, date de la rentrée des classes, un début effectif constaté par nos reporters à Abidjan et correspondants à Bouaké. Et puis la Banque africaine de développement, BAD, célèbre ses 60 années d'existence ce mardi 10 septembre à Abidjan. On a pu revoir les actions menées par cette institution avec Junior Cardin. En Guinée-Bissau, près de 3 tonnes de cocaïne ont été retrouvées dans un jet privé en provenance du Venezuela. Il s'agit de la plus grosse saisie de l'année selon la police locale. Merci à vous de nous avoir suivis tout à l'heure, notamment à 8h, vous aurez une nouvelle édition.